Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Votre radiographie du coronavirus, aujourd'hui vous allez nous parler des tests sérologiques dont on attendait beaucoup pour accompagner le déconfinement, mais dont l'utilité est aujourd'hui encore très discutée.
Oui, c'est un rapport de la Haute Autorité de Santé qui a été publié le 2 mai, qui a douché les espoirs d'un test sérologique massif de la population pour accompagner le déconfinement, avec l'idée selon laquelle si une personne est testée positive et qu'elle présente des anticorps contre le SARS-CoV-2, eh bien c'est qu'elle est immunisée et qu'elle peut reprendre une activité normale sans aucun risque de contracter la maladie. Ça, c'est ce qu'on pensait avant, mais la HAS préconise de rester très prudent dans l'utilisation de ces tests sérologiques et de les réserver à un certain type de diagnostic dit de rattrapage, hein, c'est-à-dire quand les tests virologiques, eux, ont été négatifs malgré la présence de symptômes, ou à des fins d'enquête épidémiologique, mais certainement pas pour le grand public. Alors pourquoi ce revirement? D'abord, il faut rappeler ce que sont ces tests sérologiques. À l'inverse des tests virologiques, donc le fameux test PCR où l'on va chercher la présence de virus au fond de la cavité nasale et qui permettent de déterminer si une personne est positive ou non au SARS-CoV-2, si elle est infectée donc, les tests sérologiques, eux, cherchent des anticorps et permettent de déterminer si la personne a été infectée et si elle a développé une réponse immunitaire. Les tests virologiques peuvent être pratiqués dès les premiers jours de l'infection puisque le virus est présent et se réplique dans l'organisme. Les tests sérologiques, eux, ne peuvent être pratiqués qu'au bout d'un certain temps puisque la réponse immunitaire adaptative n'est pas immédiate, a priori à partir du 6e jour et plus certainement encore entre 7 et 14 jours après l'apparition des symptômes. Ces tests sérologiques sont dépendants de deux critères de précision. C'est important de le signaler, la spécificité et la sensibilité. La spécificité, c'est le fait de s'assurer que le test détecte bien les bons anticorps, les anticorps spécifiques au SARS-CoV-2 et pas à un autre type de virus ou de coronavirus. La sensibilité, c'est le seuil de réactivité du test, le nombre d'anticorps nécessaires pour activer une réponse positive. Si le test est peu sensible, il va falloir un grand nombre d'anticorps pour qu'il soit positif, ce qui pose évidemment un problème. Pour qu'un test soit reconnu comme suffisamment efficace pour être commercialisé, la Haute Autorité de Santé a donc décrété qu'il faudrait une spécificité supérieure à 98% et une sensibilité d'au moins 90%.
Pourtant, de nombreux tests sérologiques sont d'ores et déjà commercialisés, Nicolas.
Oui, et c'est l'un des problèmes majeurs, hein, parce que même si ces tests que vous pouvez trouver en ligne paraissent certifiés avec la mention CE, ce n'est en rien une certification sanitaire ou la preuve de leur performance, mais la simple confirmation qu'ils correspondent à certaines normes appliquées par les constructeurs, par les fabricants, sans aucune vérification de performance. Mmh. Or, vous imaginez bien que cette course au diagnostic est un marché très lucratif, que le laboratoire qui va trouver le test sérologique idoine, fonctionnel, faisable en laboratoire, ce laboratoire-là va trouver évidemment un énorme jackpot. Raison de plus pour se méfier absolument de ces tests aujourd'hui commercialisés, dont certains peuvent renvoyer jusqu'à 40% de faux négatifs. Parce que c'est là l'un des enjeux majeurs de la généralisation de ces tests sérologiques. D'une part, le risque de faux positifs, c'est-à-dire une fausse détection d'anticorps qui donnerait à la personne testée la conviction qu'elle est immunisée, un faux sentiment de sécurité, donc un risque accru de contracter la maladie. Or, loi des grands nombres une fois de plus, même avec 90% de sensibilité, c'est-à-dire 10% de faux positifs, eh bien c'est une personne testée sur 10 qui risque d'être exposée au virus. L'autre problème, encore plus sensible, comme nous l'a expliqué Christine Pratt, qui est virologue dans l'Université des virus émergents à Marseille, c'est qu'on ne connaît pas encore le titre d'anticorps, c'est-à-dire la concentration d'anticorps dans le sang qui provoque la protection contre une éventuelle réinfection. Dans l'état actuel des choses, les tests ne savent pas corréler un titre d'anticorps avec un pouvoir neutralisant, ce qui signifie en clair que ce n'est pas parce que vous avez développé des anticorps que vous en avez développé suffisamment. On pense bien sûr aux personnes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Autre problème, on ne connaît pas encore la durée de l'immunité. Combien de temps ces anticorps vont-ils vous protéger du SARS-CoV-2? 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans? Le virus étant apparu il y a seulement 4 mois, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Enfin, dernier problème, un virus va conduire l'organisme à produire des anticorps neutralisants, c'est ce dont je vous parle, c'est ceux qui s'accrochent au virus pour permettre au système immunitaire de le détruire. Mais certains virus produisent également des anticorps facilitant, je vous en avais déjà parlé, le virus, à ce moment-là, ne se fixe pas sur la partie spécifique de l'anticorps, mais sur sa partie générique. Ce qui conduit à une augmentation et à une généralisation de l'infection. Or, les tests sérologiques sont incapables de faire la différence entre ces deux types d'anticorps. Alors, s'il n'est pas encore prouvé que le SARS-CoV-2 provoque la production d'anticorps facilitants, il y a un certain nombre d'indices. Au premier chef, le très fort taux d'anticorps qu'on retrouve chez certains patients qui sont gravement atteints et donc qui fait craindre la production de ces anticorps facilitants. Si de plus en plus de tests qui semblent fiables sont aujourd'hui développés, comme les quatre tests qui sont proposés par l'Institut Pasteur, par exemple, il faut tout de même être extrêmement vigilant avant de répandre leur commercialisation. Il faut pour cela des tests massifs sur d'importantes cohortes de patients malades, non malades et guéris, pour ne pas répéter ce qui s'était passé lors de l'épidémie de chikungunya en 2014, où quatre tests sérologiques commercialisés en France se sont avérés soit extrêmement imprécis, avec un nombre important de faux résultats, soit totalement inutilisables.
Merci beaucoup Nicolas Martin pour cette radiographie du coronavirus que l'on retrouve sur le site de France Culture.